Aval.
Cannabis.
Cannabis Circus.
Allô, allô.
Ah bah oui, on s'entend. On s'entend. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Radio Canus 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Pour votre émission du lundi soir, l'émission Cannabis Circus, l'émission du Cirque Lyon. Donc on vous avertit, hein, ce soir ça va être une émission un peu spéciale. Parce que on n'est pas tous au complet et puis on a improvisé un peu au niveau de la technique, mais bon, on devrait s'en sortir pour la musique. Vous verrez, ça sera certainement un petit peu folklo, mais il y aura de la musique quand même. Ne vous inquiétez pas. Donc comme tous les lundis soirs, on va s'intéresser un petit peu à l'actualité sur la question du cannabis et des drogues, mais plus précisément sur le cannabis. Même si cette semaine il n'y a pas énormément de choses dans l'actu. Contrairement à certaines semaines précédentes. Mais du coup, ça nous donnera un peu le temps de revenir sur comment les cuisiniers américains tentent de dompter le cannabis, ce dont on n'a pas pu parler la semaine dernière. On n'avait pas non plus parlé d'un responsable politique au Liban qui appelle à autoriser la culture du cannabis. Alors ça, on l'a pas vu parce que ça, c'était pas dans l'actu. Mais au Cameroun, il y a aussi des débats sur la question de la légalisation du cannabis. On aura, j'espère, le temps d'en parler un petit peu. Et voilà, sinon on va commencer un peu cette année avec une triste nouvelle. Ça nous vient d'Arabie Saoudite, voilà, le 1er janvier 2015, donc la semaine dernière. Deux prétendus trafiquants de drogue ont été décapités par le régime saoudien au sabre. Voilà, c'est absolument barbare et terrible. Voilà, le ministère de l'Intérieur saoudien a donc annoncé que Malek Ben Saïd Al-Sayari était coupable d'un trafic d'une grande quantité de hashish et qu'en plus il était récidiviste. Et donc il avait été exécuté dans l'est de l'Arabie Saoudite. Dans une autre affaire, Hussein Al-Doussari a été décapité dans la région de Riyad pour avoir tué par balle un policier. Salem Al-Hatani, membre d'une patrouille de lutte anti-stupéfiant, qui le pourchassait. Donc voilà, c'est lui qui avait le policier qui a été tué. Alors, en 2014, il faut quand même savoir que 87 personnes ont été exécutées en Arabie Saoudite. Il y en a eu, entre guillemets, que 78 en 2013. Donc, faut savoir qu'en Arabie Saoudite, le viol, le meurtre, l'apostasie, le vol à main armée et le trafic de drogue sont passibles de la peine capitale. Voilà, donc c'est pas bien joli. Voilà, une mauvaise nouvelle. Bon, malheureusement, il y en aura d'autres hein, dans ce pays, parce que ça arrive quand même assez souvent. On essaie de vous tenir au courant à ce sujet quand c'est possible. Voilà, donc avant de s'intéresser à la tribune de Cannabis Sans Frontières et de repartir un peu en Suisse, où le projet de mettre en route une légalisation par Cannabis Social Club sur le modèle espagnol a fait couler pas mal d'encre la semaine dernière. On avait déjà vu un article, mais il y en a plein d'autres qui ont suivi. Et bien en attendant, donc on va s'écouter un peu de musique avant de revenir dans le vif du sujet. Voilà, vas-y, à tout à l'heure.
T'as du feu?
Ben, c'est interdit de fumer ici.
Ah, ici aussi. Ils te vendent des clopes, tu peux pas les fumer, quoi. C'est un monde qui va en couille.
Cannabis Circus.
Tous les jours, on va être là. Et la drogue, on va l'éradiquer. Vous le vouliez ou pas? Alors, vous, les jeunes, vous avez fait passer le message. C'est vous. Vous, consommateurs.
C'est shit que ça sent.
Cannabis Circus.
Derrière chaque joint, il y a un lien avec une activité mafieuse ou terroriste. Et il faut que chacun en ait conscience.
Cannabis Circus.
Radio Canu.
Ouais, voilà le générique qui arrive un petit peu après le lancement. Mais c'est pas grave, ce soir on fait un peu une expérimentation de la technique, des interviews, de plein de choses.
C'est la première de l'année. Hein.
Ouais, c'est la première de l'année. Donc on l'a pas dit, mais on en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015. Mmh. Voilà, sans plus.
Ouais, la santé, l'année, voilà quoi.
Santé, bonheur, bonne récolte, tout ça. Non, je l'ai pas dit.
Non. Voilà.
On se remet un peu de musique.
Ah, du coup.
si, on va trouver un peu de zik, mais sinon la bande continue. Hein. On va réessayer un peu de musique.
Aval.
Cannabis Circus.
matin je crache mes glaires. À la gueule de toutes les brigades de la stupe à la judiciaire. Si je n'ai pas été clair, je peux le refaire sur un autre air. Je peux même te faire un dessin si tu le coloris en vert. Oui, grâce à la BR, ma pollution volontaire. Oui, grâce à la BR, quand t'es urbaine, je peux me plaire. Là où tu t'es tout, je peux te parler ou me taire. D'ailleurs, ciao. Salut et vogue la galère.
Alors, revenons.
Voilà, vous êtes de retour. C'était Knawa Diffusion grâce à la BER sur Radio Canus 102.2. Vous êtes dans l'émission Cannabis Circus, l'émission du Cirque Lyon. Jérôme, à toi la parole.
Ouais. Donc, on va continuer sur cette tribune de notre camarade Farid Guéwesh, que nous connaissons bien, qui représente, représente le collectif Cannabis Sans Frontières, aujourd'hui. On connaît bien une certaine époque, il était plutôt au cirque, mais bon, bref.
Aussi à N-Code.
Et voilà, oui, il est à N-Code aussi depuis pas mal d'années, effectivement. Donc, Farid, il a eu la possibilité de publier une tribune dans Libération. Alors, c'est pas tout neuf, ça date du 22 décembre. Et Farid, il interpelle directement François Hollande, en fait, pour l'inviter à, je cite, libéraliser le cannabis. Voilà, donc il adresse une lettre de doléance au Premier ministre, Manuel Valls, pardon, pas François Hollande, mais bon, bref, il parle de François Hollande dans sa tribune, donc voilà, je vais lire un certain nombre de passages de sa tribune, où il dit comme ça: lors de votre tournée des capitales européennes, notamment à Londres, vous affirmiez que votre gouvernement est pro-business. Ah non, c'est Valls qui disait ça. Pragmatique et réaliste, comme Tony Blair en son temps, vous estimez à juste titre qu'il n'y a pas de politique économique de droite ou de gauche, il y a des politiques économiques qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Si vous êtes acquis à cette maxime, il faut donc d'urgence réformer la politique française à l'égard du cannabis et plus globalement en matière de contrôle des stupéfiants. Car à l'aune du constat dressé dans le dernier rapport de la Commission mondiale de politique en matière de drogue, rendu public le 23 septembre à New York et remis à Ban Ki-moon afin de contribuer activement à la réflexion des États membres qui se réuniront lors de la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2016 sur les drogues, n'est-il pas temps de constater l'échec de la politique de contrôle en France et dans le monde? N'est-il pas urgent d'adopter une réforme de la politique de contrôle des stupéfiants pour à la fois garantir le respect des droits humains fondamentaux, améliorer l'accès aux soins et à la prise en charge des personnes vulnérables, et de véritablement protéger la jeunesse ainsi que l'ensemble de la société des conséquences délétères causées par le trafic? La libéralisation serait une alternative après plusieurs décennies de prohibition. La libéralisation ne serait pas une capitulation des valeurs de gauche face à une tendance globale dont certains États aux États-Unis, berceau de la prohibition, sont les fers de lance. Pardon. Outre-Atlantique, aujourd'hui, libéraliser signifie d'abord renforcer le contrôle de la filière du cannabis psychotrope pour tarir les ressources profitant aux organisations criminelles. Logiquement, il s'agit d'accepter que les dommages individuels et sociétaux causés par la consommation de cannabis psychotrope sont en réalité moindres et sûrement surévalués du fait d'une approche privilégiant la répression policière à la prévention sanitaire. Donc sont en réalité moindres en les comparant objectivement aux objectifs causés par l'alcool ou ceux du tabac. En changeant le statut légal du cannabis psychotrope, votre gouvernement permettrait de nombreuses innovations sociales dont les retombées positives seraient rapidement perceptibles. Voici en quelques lignes le pacte d'ingéniosité de nos doléances que nous vous suggérons d'adopter en urgence. Ouvrir un débat public sur les évolutions de la loi du 31 décembre 70 relative au contrôle des stupéfiants. Abroger l'article L3421-4 de la santé publique, du Code de la santé publique pour favoriser un débat rationnel et équilibré. Donc jusqu'ici, on prend les revendications du cirque. Décider d'un moratoire suspendant l'application des conventions internationales pour le contrôle des stupéfiants et des psychotropes en instaurant une période de régulation expérimentale de 5 ans. Permettre aux usagers de cannabis psychotrope la production domestique de plantes en efflorescence et afin de promouvoir un usage responsable, le regroupement d'usagers sous la forme de cannabis social club. développer et faciliter l'accès au cannabis aux fins thérapeutiques, soutenir une politique innovante de santé publique par le recours aux cannabinoïdes, engager une politique de régulation de la filière du cannabis psychotrope à d'autres fins que médicales. Deux points, instauration d'une agence française de contrôle de la production et de la consommation du cannabis psychotrope, contrôle de la qualité des produits et des standards définis par la production et la distribution, circuit court, cahier des charges pour le respect de normes sanitaires et environnementales, mise en place d'un comité d'évaluation scientifique composé à proportion d'un panel citoyen comprenant notamment les organisations non gouvernementales, au premier rang desquelles les associations de défense des usagers, d'experts scientifiques et des responsables institutionnels locaux et nationaux. Ceci est un appel urgent à prendre en compte dans le cadre du débat qui s'ouvrira bientôt au Parlement pour l'adoption du projet de loi santé numéro 2302 défendu par notre ministre de la Santé, Madame Marisol Touraine. Voulez-vous véritablement réduire le train de vie de l'État et réussir les économies budgétaires qui rétabliront la confiance tout en renflouant les caisses du trésor public ? Voulez-vous lutter contre le blanchiment alimentant des réseaux criminels et redistribuer du pouvoir d'achat aux catégories sociales paupérisées en proie à la répression ? Voulez-vous stopper une délinquance juvénile galopante et redonner la primauté à l'éducation et au civisme ? N'est-il pas temps d'endiguer les dérives criminelles qui touchent les quartiers populaires et qui finalement engendrent un fort sentiment d'insécurité favorisant les ennemis de la démocratie ? Il y a urgence à répondre à ces questions, d'abord au nom de la justice et au droit de toute personne au meilleur état de santé physique et mentale possible, également pour améliorer des conditions de vie quotidiennes des personnes atteintes de maladies graves. Il y a urgence aussi parce que le droit doit s'adapter aux évolutions sociétales et d'évidence la loi doit d'abord s'appuyer sur des arguments scientifiquement validés, comme en atteste le rapport parlementaire remis le 20 novembre 2014 par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la lutte contre l'usage de substances illicites. En prenant le leadership mondial sur la question de la sortie du tableau des stupéfiants du cannabis et à tout le moins de sa reclassification au tableau 3, comme le préconisait le comité d'experts de la pharmacodépendance de l'OMS en 2003, votre gouvernement affirmerait un rôle pionnier à la France au sein de la commission des stupéfiants de l'ONU. Voilà, un peu, je vous les ai lus dans son intégralité, aussi vite que j'ai pu, la tribune donc de Farid Guewesh, représentant le collectif Cannabis sans frontières. Alors, à la différence un peu du cirque, hein, ce qu'on peut quand même dire, c'est que Cannabis sans frontières n'a pas hésité à présenter des listes à l'occasion d'élections. Alors en 2009, la première fois, c'était pour les européennes. Et puis en 2012, il y avait une liste Cannabis sans frontières pour les présidentielles.
Non.
Non ?
Non, non.
Ah si, j'en suis sûr. Certain.
Ouais. Ah, mais je suis sûr que non.
Enfin, en tout cas, il y a eu une liste qui a été présentée, je crois que c'était l'année dernière.
Voilà, c'était pour les européennes l'an passé.
Je confirme.
Voilà, ça oui, sur
par
les
contre,
européennes.
Non, les présidentielles, sûr. Malheureusement, les présidentielles, c'est quand même vachement certain. Compliqué pour arriver à présenter une liste, quoi. Déjà, je veux dire simplement, tu connais Farid, simplement, ils ont dû émettre l'idée de le faire, mais pour arriver à déjà avoir les signatures, tout ça, ils n'avaient pas du tout une liste aux présidentielles, non ? Ils avaient été très, très loin. Tu dois confondre avec autre chose.
C'est pour les législatives. Qu'ils avaient présenté une liste pour les législatives un mois après les présidentielles.
Exact.
Là, oui, c'était pour ça que c'était à Paris. C'est très proche, oui, à Paris.
Exact. Et il avait fait d'ailleurs un très bon score.
Un score plus important que, par exemple, que Christine Boutin et d'autres
réalisateurs. Voilà, c'était. Ben ça, c'était pour les dernières européennes, ce résultat-là.
Ah, non c'était pour. Je crois que pour les deux, en fait.
D'accord.
Je me demande s'il n'y a pas eu un peu. Ouais. Ouais. Bon, voilà. Enfin. Donc Cannabis sans frontières, voilà.
Donc eux, c'est vraiment leur rôle, hein. C'est un mouvement politique en fait. Ouais. Quoi. Ouais. Donc justement, c'est un peu ce qui manquait en France en fait, parce que le cirque, on est là pour faire de l'information, mais au niveau politique, on ne s'est jamais vraiment inscrit à des listes.
Bah, non, surtout qu'on ne veut pas en plus.
Ah ouais, non, justement. Ouais.
Je crois que je peux donner deux chiffres.
Vas-y.
Aux européennes, en 2009, Cannabis sans frontières avait fait 1500 voix, je crois. Et en 2014, ils ont fait plus de 2700 voix.
En 2014 ?
Oui.
En 2012 ?
Non, en 2014, parce qu'il y a eu les européennes en 2014.
Ah oui, c'était cette année aussi.
Et oui,
c'était l'année dernière, là.
Ouais. C'était cette année.
D'accord,
enfin,
excuse-moi.
Ouais, il y a eu les.
Oui, mais
les
t'as maires. Raison, en 2009, 2014, bah, oui, 5 ans après.
Ouais. Non, mais ouais. Je peux en parler, j'en faisais partie à l'époque de la liste.
Ouais, ok, ouais. Oui, bah, oui, tu peux en parler, en effet. D'accord, d'accord. Ouais, donc c'était voilà, au mois de juin, ouais. Dernier.
Voilà, exactement.
Tout à fait, oui.
Ouais, ok, ok. Ouais.
Voilà, donc voilà, merci, pour vous expliquer un petit peu ce mouvement qui existe depuis, bah, depuis 2009. Hein, bah, je crois qu'ils sont montés à ce moment-là.
Oui, oui, oui.
Donc en fait cette tribune bon elle est quand même dans l'ensemble est plutôt pas mal on va dire mais enfin moi il me semble quand même que finalement il fait pas le tour du sujet quoi. Il explique un mode de distribution de cannabis mais bon je pense qu'il manque quand même pas mal de choses finalement si on veut expliquer tout le circuit que cela va comporter une légalisation du cannabis.
Bah, alors oui, alors effectivement, si on repense un peu à la comment dire au rapport parlementaire là sur l'évaluation et le contrôle des politiques publiques ou le rapport Terra Nova là rendu public au mois de décembre où là il parlait pas du tout d'autoproduction. Là ouais. Farid ne parle que d'autoproduction voilà. Et ne parle pas du reste en fait.
Voilà. Ouais. En fait, il faut faire un petit mélange des deux. Moi, souvent, je trouve qu'on oublie aussi de parler des personnes qui seront acteurs dans la légalisation. Et je pense qu'on oublie de dire qu'il faut vraiment que les gens qui actuellement vivent de trafic de cannabis, et surtout, moi, je pense à tous ces petits gens quoi, qui vendent des barrettes, tout ça. Je pense qu'à tout prix, il faut que ces gens-là puissent avoir un rôle à jouer dans un mode de légalisation. Il faudra surtout pas les oublier et il faudra surtout les intégrer dans ce système, quoi. Parce que souvent on nous dit ouais ben les mecs qui vendent ça si vous légalisez qu'est-ce qui va se passer ils vont vendre autre chose ben non justement il faudra vraiment qu'ils soient intégrés dans qu'ils soient planteurs qu'ils soient
qu'ils aient leur rôle à jouer
qu'ils aient vraiment un rôle à jouer quoi et je trouve que souvent ben dans tous les rapports qu'on a lus on oublie un petit peu d'en parler aussi quoi.
Ah oui complètement c'est complètement omis oui. Oui, et tout ça pour dire que quand on a relégalisé l'alcool aux États-Unis, les autorités américaines ne se sont pas débarrassées des producteurs d'alcool qui existaient en fait. Ils ont remis en route ils ont relégalisé puis ils ont permis à ces producteurs qui étaient avant légaux et qui ne le sont plus devenus et après qui le sont redevenus. De continuer à vendre de l'alcool et les gens qui travaillaient avec eux aussi, qui étaient pourtant un temps considérés comme des criminels, quoi.
Voilà.
Donc bon, voilà, tout simplement, finalement, c'est pas non plus...
Non, je pense que c'est une argumentation qu'on peut avoir, oui. Quoi, hein, en tout cas. On nous explique souvent que si on légalise, les gens ils vont faire autre chose, on aura plus d'autres drogues sur le marché, etc. Et nous, on pense que non, quoi. Donc voilà. Oui.
Voilà. Alors moi, autre chose dont je voulais parler, un mot qui me gêne un peu, c'est le mot libéralisation. Après, dans le texte de Farid, ce mot peut s'entendre dans le sens où il n'utilise pas non plus le terme libéralisation un peu au sens journalistique, qu'on peut voir un peu partout. Voilà, pour beaucoup de gens, dans l'esprit de beaucoup de gens, la libéralisation du cannabis, en gros, c'est... permettre de vendre tout un tas de sortes de cannabis dans tout n'importe comment, dans tous les sens possibles et imaginables. Voilà, donc faut faire gaffe à ce mot.
C'est dans ce sens qu'il est utilisé ?
Non, je pense pas que Farid l'utilise dans ce sens, mais c'est souvent dans ce sens-là qu'il est compris. Alors c'est quand même un peu ennuyeux. Mais effectivement, quand on voit la densité de la prohibition en France... le mot libéralisation a un sens quand même, parce qu'effectivement on est tellement coincé que si on utilise ce mot en voulant dire qu'il faut changer les lois et donc libéraliser un peu le secteur, ça peut s'entendre, mais c'est un mot quand même qui me gêne un peu et qui à mon avis fait un peu paniquer beaucoup de gens. Et je sais pas si on a besoin de paniquer ou de j'allais dire provoquer un peu nos détracteurs vu qu'il leur en faut si peu, mais bon, en tout cas voilà. intéressant quand même que Cannabis Sans Frontières et que les mouvements sociaux sur le cannabis puissent avoir la possibilité de faire une tribune dans Libération, puisque c'était le cas fin décembre. Voilà ce que j'avais à dire. On pourrait y passer des heures, mais bon, on va peut-être avancer un peu dans l'actu. Je ne sais pas si tu voulais.
Non, juste simplement, tu parles de cette tribune sur Libé. Nous, on a été surpris aussi d'être appelés par RMC dans l'émission Bourdin. Parce que franchement, ça a été une surprise, quoi. On se sentait un petit peu boycotté, quoi. Quand on appelait, on ne passait jamais à l'antenne, on avait un petit peu abandonné. Et du coup, il y a eu un débat qui a été fait, je crois qu'il y a une dizaine de jours. C'était par rapport au rapport Terra Nova. Et donc là, l'émission qui débattait sur le sujet nous a appelés pour qu'on puisse intervenir et donner notre point de vue. Et en tant qu'association de consommateurs, bah, c'était vraiment presque exceptionnel d'intervenir à cette antenne, quoi. Voilà, je voulais juste en parler parce que là, tu parles de Libé. De temps en temps, on arrive à se faire entendre par les grands médias. C'est quand même aussi important, quoi.
Tout à fait.
On va peut-être faire tourner un petit peu de musique.
Ah ben ouais, allez, un peu de musique.
Si David, il arrive à nous mettre un petit morceau.
Un peu de rock.
Quelques classiques.
Et nous voilà de retour après ce petit morceau qui nous a fait bouger un peu.
Et dont on ne peut vous révéler ni le titre, ni le nom des artistes. Voilà. Donc, on va repartir un peu en Suisse. On vous en a déjà parlé un peu la semaine dernière. Et là, dans la semaine qui vient de passer, beaucoup d'articles en fait sur le sujet. Donc la Tribune de Genève, on n'est pas étonné. 20minutes.ch, on n'est pas étonné non plus. Le Telegram.fr, qui est aussi un quotidien genevois, enfin suisse. Le Temps.ch, qui est aussi suisse. Voilà, bon, pas mal de. Mais alors, plus surprenant, le Dauphiné. Le Dauphiné.com en fait, voilà. Bon, pourquoi ? Ben parce que ils sont frontaliers avec la Suisse en fait. Hein. Je pense que c'est aussi ça et du coup, ça les intéresse. Donc, de quoi s'agit-il ou s'agissait-il pour celles et ceux qui ont écouté Cannabis Circus la semaine dernière ? Eh bien, sur le fait que un certain nombre de politiques, de groupes interpartis, Helvète, se propose de tester la légalisation du cannabis. Alors, à l'initiative de ce projet, c'est Ruth Dreyfus, qui fait partie du groupe de personnalités politiques, d'ailleurs au niveau des Nations Unies, qui pousse un peu pour qu'on change la doctrine actuelle en termes de drogue, que ce soit en France ou en Europe, mais un peu dans le monde entier. Et donc, voilà, en Suisse, ils veulent repartir de l'avant, ils ont envie de mettre en place, ou enfin d'expérimenter en fait les Cannabis Social Club espagnols. Voilà, en fait, c'est ça leur modèle, hein. Ils veulent essayer ça à Genève, mais pas uniquement, aussi dans d'autres grandes villes en Suisse, donc comme Berne par exemple, Zurich, Bâle, Winterthur par exemple aussi, c'est une grande ville en Suisse. Alors, faut savoir par contre qu'en Suisse, il y a un parti hyper hostile à tout changement ou progrès social, c'est l'UDC. Donc l'UDC, ça serait un peu un mélange entre l'UMP et le Front National. En France, là-bas, ils sont sans complexe. Hein, il y a un parti, en fait, d'extrême droite, hein, ou de droite très dure. Ils sont pas aussi hypocrites et coincés qu'en France. Hein, il y a plusieurs partis voilà, là-bas. Bon. Alors l'UDC, depuis très longtemps, en fait, freine des cas de fer, voire même a permis un certain retour en arrière. Je dis ça parce que dans le courant des années 90 en Suisse, à un moment, on a bien cru qu'ils allaient légaliser. Ouais. Hein, en fait, entre 95 et 2001, il s'est passé pas mal de choses très positives sur la question du cannabis. Et on était tout près, hein, tout près de voir quelque chose très positif se faire en Suisse. Et à cause de l'UDC, il y a eu un retour en arrière, un retour de bâton phénoménal entre 2001 et 2008, en fait. Et depuis 2008, les choses progressent à nouveau. Et donc, voilà, un certain nombre de personnalités politiques suisses, donc à l'initiative de Ruth Dreyfus, pousse en fait pour que la Suisse sorte de système prohibitionniste. Alors même si à cause de l'IDC la Suisse a fait marche arrière, ils sont quand même vachement plus en avance que nous, hein, parce que dès la fin des années 80, alors pas pour le cannabis, hein, pour des produits un peu plus costauds, hein, pour l'héro par exemple, à Zurich, ils avaient dépénalisé l'usage d'héroïne à Parksplatz. Je crois que c'est le nom du parc, hein, je ne me rappelle peut-être plus du nom exactement.
Ouais, c'est pas ce nom-là, je crois. J'arrive pas à le retrouver non plus.
Et du coup, très vite, ils avaient enclenché des programmes de réduction des risques avec des assos qui se sont créés. Donc voilà, bon, ils sont quand même particulièrement plus en avance que nous. Alors, quelques déclarations d'un certain nombre de politiciens suisses, par exemple Mauro Poggia, qui a déclaré au Temps, un journal suisse, le gouvernement est d'accord pour aller de l'avant, on veut faire bouger les choses, sinon ce même Mauro Poggia déclare, toujours au Temps, mais dans un autre article dans le Télégramme, il dit comme ça, le Conseil d'État est d'accord pour aller de l'avant, la politique de répression est un échec, nous n'allons pas nous interdire de réfléchir à d'autres pistes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Je crois que c'est un constat un petit peu de partout, ouais. Déjà, c'est que
sauf ici.
Prohibition est un échec.
Ah non, j'exagère.
Si, sauf ici, c'est-à-dire notre gouvernement, notre président, ils veulent pas le reconnaître.
Oui, mais il y a quand même des politiciens comme Bassa, voilà. Ledin, Marcangeli, même qui est de l'UMP. Hein.
Voilà,
Vaillant. Et puis
il y en a quand même quelques-uns en fait.
C'est à l'UDI aussi. Il y en a qui sont plutôt partisans d'un changement.
C'est possible. Ouais,
je sais pas si c'est pas Morin ou un autre. Bon, je parle pas de Ramayad, hein, qui dit n'importe quoi. Mais bon, je te parle d'elle parce que c'est la seule qu'on a vue s'exprimer ou qui a eu l'occasion d'avoir un droit de réponse ou d'expression dans les journaux, membres de l'UDI. J'ai vu personne d'autre de l'UDS s'exprimer par rapport au rapport de Terra Nova au rapport Ledin-Marcangeli là, sur l'évaluation des comités d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Donc, bon, peut-être qu'il y a d'autres gens à l'UDI il y a d'autres gens à l'UDI qui pensent autrement, mais on les a pas entendus.
Ouais, donc, puis voilà. toute façon, c'est politique. Alors, je veux dire, ils se mouillent pas trop. Ils savent pas trop encore sur quel pied ils vont danser. Et puis, ça dépend un petit peu le vent, comment ils tournent. De toute façon, on sait comment ils fonctionnent, les partis politiques. Faut pas rêver, quoi. C'est pas vraiment des idéologies. C'est plutôt en fonction de.
Oui, hein. C'est des postures de principe un peu.
Tout à fait, ouais. Puis vous prenez après chez les militants, ben c'est partagé aussi, quoi. Que ça soit chez les socialos, chez l'UDI, c'est des partis où c'est le MoDem aussi. Moi, j'avais eu l'occasion d'en rencontrer sur le sujet. Il y a un petit peu de tout, hein, et même le NPA. Hein, je ne sais pas si tu étais allé à des réunions du NPA. C'est assez impressionnant, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui sont archi contre, parce qu'en fait, ils connaissent pas le sujet, tout simplement, quoi. Hein. Une fois que nous, on arrive à s'exprimer un peu, à expliquer le pourquoi du comment. Là, il y a déjà un changement. Parce que dans l'idée, les gens, ils sont toujours à penser, ah, vous voulez légaliser, fumer votre pète tranquille, tout ça, mais on est bien au-delà de tout ça, quoi. La réflexion, elle n'est pas si simple que ça. C'est déjà une question de santé publique. Et en fait, le cannabis, c'est bien au-delà qu'un produit qui nous fait tourner la tête. Donc le sujet, il est trop pris à la légère par la population, même par les fumeurs. Et en fait, ils comprennent pas forcément notre combat au cirque, quoi. Voilà.
Oui. Donc, pour finir un peu sur cette partie helvète, je vais reprendre un peu ce que disait Ruth Dreyfus. Donc, voilà, elle dit, voilà, on se donne un an pour avancer. Pour préparer le projet, voilà, je trouverais bien qu'au final, il y ait quand même différents modèles pour pouvoir ensuite comparer les résultats, dit-elle. Et elle ajoute un peu plus loin, tout ça c'est un peu pour faire des expériences scientifiques, hein, de légalisation. Et elle ajoute, c'est très sérieux. Nous suivons notamment la situation aux États-Unis, dans le Colorado, dans le Washington, mais aussi en Uruguay. Voilà. Ce qu'on peut lire également et qui est un peu comment dire, un peu différent. Ah, j'ai perdu le fil de mes articles.
Moi, je peux pas t'aider.
Ah, t'inquiète, je vais retrouver. Donc oui, voilà, c'est ça. Pour rappeler quand même déjà un peu ce qui se fait en Suisse sur le cannabis. Voilà, donc la production et la vente d'herbes sont complètement interdites, mais des dérogations existent pour la recherche, le développement de médicaments ou une application médicale limitée. Donc ça, c'est quand même toujours possible. Ouais. Ils sont vachement en avance par rapport à nous.
Hein. Ouais, c'est clair.
Ouais. Mais quand même, l'usage reste interdit sur tout le territoire helvète et peut être sanctionné d'une amende de 100 francs suisses pour une détention n'excédant pas 10 grammes. Mais même ça, ils sont des années-lumière en avance par rapport à nous. Ça, faut rappeler qu'en France, la possession du moindre gramme ou du moindre pétard ou de la moindre plante de cannabis, et pour la culture, c'est 20 ans de prison. Hein.
Voilà. Et un joint, c'est
un an.
Un an.
Voilà.
Ça,
donc,
c'est
donc là, on voit qu'il y a quand même eu un assouplissement.
Mais il y a quelques temps, en Suisse, il y avait une votation, si je me souviens bien, dans certains cantons, et le non l'avait remporté. Hein. Tu te souviens, il y a quoi, il y a un an et demi, quelque chose comme ça,
ouais,
il me semble.
Bah effectivement, t'as raison, il y a déjà eu une tentative de faire passer une légalisation par...
Parce que ça fonctionne comme ça en Suisse.
Oui, tout à fait. Oui.
Ah, c'est par canton, c'est les cantons qui votent.
Oui, il y a un petit côté états-unien dans ce système électoral. Effectivement, ça va être rejeté, mais pas énorme, hein, pas énorme. Alors, pour finir là-dessus, je vais rappeler un peu ce dont on a parlé la semaine dernière et qui est un problème. C'est toujours l'UDC le problème, en fait. Hein, c'est qu'en fait, voilà, il y a quand même des progressistes au niveau des politiciens qui ont donc, comme on vous l'explique, prompt à faire avancer la loi. Ils sont des réformateurs, en fait. Mais il y a quand même un problème, et un problème de taille, c'est que l'UDC, eux, ils sont montés tout en haut. En fait, ils sont allés voir le Grand Conseil. Hein. Bon, je la fais vite. Hein. Et en fait, le Grand Conseil a accepté en novembre dernier, donc en novembre 2014, a accepté donc une motion de l'UDC qui réclame tout simplement l'interdiction de projets pilotes autorisant la culture, la distribution et la consommation de cannabis. Ouais. Donc déjà, ils ont déjà anticipé... un éventuel changement, et du coup ce changement il serait déjà barré au plus haut niveau, quoi.
Après il peut avoir le débat que tu veux, ouais. Avec un amendement de la sorte, c'est cuit, quoi.
Bah ça va être un peu plus compliqué. Alors parce que en fait là dans les articles dont on parle, il va falloir que on nous explique qu'il faut que ça va nécessiter une révision de la loi sur les stupes au niveau de l'OFSP. Alors c'est l'Office fédéral de la santé publique. Voilà. Mais je pense pas que l'OFSP puisse passer au-dessus du Grand Conseil en fait. Donc ça, je suis un peu étonné. Alors, si, l'histoire du Grand Conseil là. Il y a qu'un seul article où ils en ont parlé, c'était l'article dont on parlait la semaine dernière, c'était dans letemps.ch. C'est pas abordé dans les autres articles qu'on avait à notre disposition dernièrement et aujourd'hui. Voilà. Donc on va suivre tout ce qui va se passer au niveau de la Suisse. Mais en tout cas, voilà, les gens de bonne volonté là-bas, les politiciens qui sont prêts à faire changer les choses. Et qui sont motivés, et pas que depuis un an, mais depuis plusieurs années, quoi. Parce que Ruth Dreyfus, hein, c'est une personne qui travaille sur le sujet depuis au moins 10 ans, et qu'on voit régulièrement depuis 10 ans dans les articles et tout ça. En France, on n'a pas ces politiciens-là qui s'emparent du sujet à bras-le-corps et qui acceptent de limite de faire carrière avec ces thèmes-là, en fait. C'est respecté et respectable là-bas, chez nous. C'est des thèmes casse-gueule et qui sont pas porteurs ni électoralement ni politiquement, et dont les politiciens se méfient en plus.
Là je suis en train de penser à l'exemple de Daniel Bayan. Il a bien insisté quand même pas mal de temps autour de son parti, mais il a fini par un petit peu abandonner.
Ah, mais il a été désavoué.
Ouais, voilà, en fait c'est en ça 2012, le problème. C'est
suite à l'élection de Hollande, il y a eu un congrès à Toulouse. Et il avait une espèce de motion avec des propositions de loi. Et il a été... personne n'a voté pour sa motion, quoi.
Voilà. Donc c'est pour ça aussi un peu qu'ils n'insistent pas, quoi.
Voilà. Ben, il s'est grillé, là. Bayan. Il s'est grillé pour l'instant, mais ça se trouve... On continue à parler de lui dans ses... comme référence de... au niveau des rapports qu'il a pondus, quoi. Voilà, ça se trouve... Dans quelques années, il ne sera pas du tout has-been, et au contraire, tous ceux qui l'auront rejeté, nié, on n'entendra plus jamais parler. Et je pense que c'est, si le sens de l'histoire va comme ça, c'est ce qui se passera, quoi.
On a un peu de...
Ouais, un peu de musique.
Ça, ça y est dans le jus.
Je m'en vais pas samedi. Et sur Radio Canu, la plus...
Ouais, vous êtes toujours sur Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, dans l'émission Cannabis Circus, l'émission du Cirque Lyon, tous les lundis soirs de 21h à 22h. Et donc maintenant, on va aller faire un petit tour au Cameroun. Au Cameroun, où, selon camer.be, qui est un quotidien ou un journal camerounais en ligne sur Internet, y aurait un commencement de débat sur la légalisation du cannabis au Cameroun. Alors, il faut savoir qu'apparemment, au Cameroun, dans cet article, en tout cas, on nous explique que, bah, pas qu'au Cameroun, hein, comme un peu partout dans plein de pays du monde, bah, c'est une substance populaire, en fait. De par la prohibition qui sévit, des trafics, des arrestations, des... ça pose les mêmes problèmes un peu partout, d'ailleurs. Hein, on nous explique que récemment, l'anti-gang était encore aux trousses d'un cultivateur de cannabis. Qu'au Cameroun, le débat sur la légalisation divise l'opinion, par exemple. Mais on nous explique aussi que la plupart des médicaments qui sont consommés contiennent du cannabis au Cameroun. C'est le dernier antalgique après la morphine. Voilà. S'il est régulé, ça pourrait éviter beaucoup de dérives. Voilà, par exemple, un des points de vue partagés par les responsables de l'association Ajafé, une association féminine basée dans la capitale politique, qui dit comme ça, au-delà de l'approche pécuniaire, les vertus du cannabis sont reconnues en Afrique de l'Est, dans l'accompagnement des malades du sida. Beaucoup d'entre eux sont encouragés d'en consommer pour stimuler leur appétit. Mais par contre, c'est un argument rejeté par Joseph Djenné, journaliste et enseignant à l'université. Il y en a plein au pays, ce n'est pas une bonne chose de légaliser ça, il y a des effets dévastateurs sur la santé. Voilà ce que dit un journaliste. Alors après, les Camerounais apparemment n'ont pas spécialement de position, certains Camerounais n'auraient pas de position particulièrement concrète sur le sujet. Il y en a qui disent voilà, ça dépend des objectifs à atteindre en mettant au centre les préoccupations des hommes en fait. Une autre journaliste dit comme ça, ce sont les intérêts du gouvernement, ce sont les intérêts qui gouvernent le monde. Oui. Et aussi, la légalisation du cannabis en France, comme au Cameroun, consisterait tout simplement à tuer le marché noir du cannabis qui a fait plus de dégâts d'abord en laissant circuler des quantités incontrôlables de cannabis. Ensuite, en enrichissant une mafia souvent étrangère. En achetant ouvertement du cannabis, les consommateurs contribuent à financer le fonctionnement de ces programmes de santé. Nos gouvernements ne doivent donc pas se laisser faire, mais en même temps, ils doivent avoir de bons arguments et de bonnes méthodes pour l'expliquer. Voilà. Et enfin, pour Jean-Vincent Djenda-Mondon, le premier effet de la légalisation sera de faire jouer les coûts à la baisse dans les circuits mafieux de distribution. Ce serait, en cas de légalisation, une bonne nouvelle pour le portefeuille des fumeurs de plus en plus nombreux, mais une très mauvaise nouvelle pour la santé publique. Au Cameroun, je n'ai jamais eu l'impression qu'il y avait autant de fumeurs. Voilà, un peu différents avis, mais en tout cas, la question commence à se poser au Cameroun. Voilà. Ce qui n'est pas plus mal. Et on espère que ça continuera à se poser. Voilà. Alors maintenant, on va revenir un peu plus proche de la bord de la Méditerranée. Alors, c'est au Liban. Un chef druze libanais, Walid Djoumblat, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises dans Cannabis Circus, et qui est bien connu pour son franc-parler, et ça fait l'objet d'une dépêche dans l'AFP mi-décembre. Et donc, Walid Djoumblat a appelé sur son compte Twitter à autoriser la culture du hashish, une industrie qui générerait des centaines de millions de dollars durant... la guerre civile. Et M. Djoumblat d'ajouter, il est temps d'autoriser la culture du hashish et d'annuler les mandats d'arrêt contre les personnes recherchées dans ce domaine. Voilà ce qu'il a écrit dans un tweet en arabe dernièrement. Il faut savoir qu'actuellement, la loi libanaise punit le trafic de drogue par la prison, mais les villageois de la plaine de la Beka à l'est, en fait, qui est une des terres de trafic du hash, où l'appartenance clanique prime sur le reste de l'État, défendent avec force leur culture prohibée qui, selon eux, fait vivre des familles entières. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire pour finir? Que M. Djoumblat avait utilisé cet outil, donc le tweet, qui est un outil en fait. Un outil pour attaquer le président syrien Bachar al-Assad ou dénoncer ou tenser les dirigeants libanais. Selon certains cultivateurs de cannabis au Liban, le conflit en Syrie voisine a détourné l'attention de l'État et dopé le trafic avec une frontière beaucoup moins contrôlée, forcément. L'armée détruisait auparavant chaque année quelques milliers d'hectares de cannabis dans la Beka. L'État avait mené des campagnes d'éradication promettant des cultures alternatives. Alors ça, c'était il y a au moins 8 ans, mais ça n'a jamais marché. Hein. Mais depuis l'échec d'un programme de l'ONU il y a 15 ans, c'était même pas il y a 8 ans, un bras de fer l'oppose aux cultivateurs qui réclament la légalisation de cette culture ancestrale. Et selon les agriculteurs, la demande a augmenté de plus de 50% depuis 2012 et la majorité du hashish est écoulée vers la Syrie. Voilà. Donc, une dépêche de l'AFP du 13 décembre dernier. Et enfin, pour terminer, on va prendre quelques minutes pour parler un peu de cuisine. Avec, aux États-Unis, un certain nombre de cuisiniers qui, voyant un peu le changement législatif au niveau du cannabis, s'intéressent maintenant au cannabis pour faire des plats à base, enfin, ou avec du cannabis dedans, en fait. Voilà. C'est en train de devenir une quête culinaire légitime et très lucrative. C'était dans le Nouvel Obs, dans la partie temps réel. Et en tout cas, c'est ce qu'affirmait au New York Times dans une longue enquête sur les tribulations des chefs américains pour dompter cette plante aux effets bien connus. Voilà. Donc le quotidien américain expliquait que dans l'état du Colorado, il y aurait déjà eu 160 licences accordées à des restaurants pour cuisiner de la marijuana. Qu'à Seattle, une boulangerie de cannabis dédiée à une clientèle aisée va bientôt ouvrir ses portes. À New York, les grandes maisons d'édition et les auteurs de livres de cuisine s'interrogent sur les possibilités qu'offrent la marijuana et le cannabis. Et mieux encore, selon le New York Times, les chefs des deux côtés des États-Unis et dans les pays à l'avant-garde culinaire, comme le Danemark, organisent des repas underground avec au menu de la pastèque comprimée, du fromage fumé et de la vinaigrette à l'huile de marijuana. Une société va même sortir un livre de recettes maîtriser l'art de cuisiner avec du cannabis. Alors là, par contre, ils ont quand même pas loin de 20 ans de retard sur nous.
Ah, mais c'est
on
clair.
Peut dire.
Ah,
c'est parce clair. Que là, par contre, quand je dis nous, c'est pas qu'en France, mais en tout cas, c'est parmi un certain nombre de
mais si on regarde
de canactivistes, de militants.
Si on regarde Amsterdam, ça s'est pas développé plus que ça, quoi,
non.
Les restaurants cannabis.
Tout à fait.
On a retrouvé un peu des salons de thé, des choses comme ça, où on pouvait manger des space cakes, mais ils sont jamais allés beaucoup, beaucoup plus loin, quoi. Mais par contre, moi, ça m'étonne un peu, quoi. D'un coup, comme ça, cette curiosité pour, ils ont l'air de découvrir, quoi, que le cannabis peut se cuisiner, se manger. C'est une épice. C'est
Je suis pas persuadé que. Enfin, je veux dire, la question de l'utilité, enfin, du chanvre global, en fait, c'est pas forcément une quelque chose qui est à l'esprit de tous les amateurs de cannabis ou les cannactivistes ou militants cannabinophiles, etc. En fait, je pense que pour beaucoup, 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 beaucoup de gens, le cannabis, c'est un truc qui fume et qui se fait planer. Et c'est pas par exemple une plante.
Le space cake, il les connaît tous.
Oui, mais là, c'est pas uniquement là-dessus.
Et justement, et personne n'a pensé à aller forcément.
Ben, je suis pas persuadé.
Dans des sauces, dans des viandes, dans des.
Je suis pas persuadé que beaucoup de gens sachent déjà que avec des graines de chanvre, on puisse faire de l'huile, et que cette huile, elle possède le meilleur équilibre au monde, oméga 3, oméga 6. Très peu de gens savent ça.
On est là pour le dire.
Voilà, et on le dit.
Et on connaît des gens. Qu'on existe.
Et on connaît des gens qui le pressent.
Voilà,
le Jardin d'Éden à Villeurbanne, par exemple, qui possède une expérience de plus de 10 ans sur l'utilisation, l'exploitation des vertus culinaires du chanvre. Et qui, donc, à mon avis, aurait des leçons à donner à un certain nombre de chefs cuisiniers américains, et pas que, sur comment on peut utiliser. Le chanvre pour des préparations en fait culinaires. On peut en faire des farines.
Ah, tu me l'enlevais de la bouche.
Farine, je connais pas tout. Hein. J'aurais du mal à. Et dernièrement, la pâte d'amande de chanvre.
Ah ouais, le chocolat, on a.
Le chocolat avec des graines qui remplaceraient les noisettes, par exemple. Mais alors là, la pâte d'amande de champ, c'est une trouvaille quand même qui a moins d'un an. Et qui commence à faire fureur. Hein.
Ah bah les deux saveurs, ça doit exploser le palais. Quoi.
Ouais.
Ouais. Enfin, c'est ça qui est extraordinaire en fait avec le chanvre, quand vous le mélangez, nous on a remarqué avec la mangue par exemple, avec l'avocat, c'est vraiment des mélanges qui
se marient bien, ouais.
Magnifiques, quoi,
d'accord.
C'est la fête au papier.
Quelqu'un qui on serait un peu opportuniste et on partirait aux States, on ouvrirait des restos et tout, on ferait fortune.
Ah ouais, sans doute. Sans doute, mais on va légaliser en France et puis on va faire ça ici. Ouais. Avec alors, toute l'information et la prévention qui doit aller autour, quoi, hein, parce que ingérer le cannabis, c'est une autre expérience que fumer, quoi. Hein, là, vous partez sur autre chose, quoi. Hein, faut bien connaître son corps et les produits que vous consommez. Hors question de manger du shit de rue, hein, là, c'est du cannabis que vous faites à la maison, etc. Là, on tombe vraiment sur autre chose au niveau prévention aussi, quoi. Alors, c'est pour ça que c'est des licences qui sont distribuées.
Pour continuer un peu sur l'aspect gastronomique, encore une fois, on voit que dans cet article de Nouvel Obs, ben, ils sont très 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 en retard, hein, parce qu'on peut lire par exemple les propos de Grants Achatz, qui est un grand chef de Chicago réputé pour sa cuisine expérimentale. Et ce Grants Achatz, il dit « c'est pas vraiment bon hein. ». D'après mon expérience très limitée avec le cannabis comestible, sa saveur est assez horrible.
Là, du 3 en mètre, il y a les histoires de dosage. Où... Ouais,
c'est vrai, c'est qu'il a mangé. C'est assez étonnant en tout cas. Mais bon, voilà, en tout cas, ils cherchent. Et effectivement, comme tu dis, ils ont visiblement pas trouvé avec quoi on peut utiliser ou marier du cannabis. Enfin, du chanvre.
Bah, apparemment, c'est ce qu'ils sont en train de chercher.
Ils sont en train de chercher.
Faire des expériences sur le sujet, quoi. Mais ils vont trouver.
Ouais. Ok, ouais, peut-être. Je suis pas certain, en fait. Hein. Je suis pas certain.
On pourra les aider.
Bah, peut-être, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que déjà, bon, en France, on connaît certaines personnes qui ont développé le côté culinaire ou gastronomique. Au niveau du chanvre, mais en fait déjà il y en a très peu, et parmi ces très peu il y en a deux qu'on connaît très bien puisqu'ils sont très proches du cirque, voire ils font partie du cirque ou ils ont été membres du cirque, voire, enfin bon bref, et voilà, en fait déjà même en France il y en a pas des masses, quoi, il y en a très peu, et donc ces personnes à ma connaissance sont les seules qui font des expérimentations. Je parlais de la pâte d'amande de chanvre, c'est très récent, il y a une personne qui a pensé hein, pour l'instant.
Alors que l'idée est sûrement très bonne. Quoi,
ouais, mais du coup, je ne suis pas certain que finalement ils arrivent à exploiter ce créneau. Ou alors uniquement sur le côté récréatif et culinaire, c'est-à-dire faire des space cakes, effectivement. Parce que bon, là, c'est quand même un truc dont ils parlent dans cet article, tu vois, ils disent « Le défi est de réussir à contrôler les cannabinoïdes, comme le tétrahydrocannabinol, le THC, qui modifie l'humeur et les sensations physiques. » Donc ils en sont quand même toujours là. Donc cuisiner un truc, forcément, il risque d'y avoir du THC dedans. Mais en fait, il suffit d'exploiter différemment la plante et d'en faire d'autres préparations qui sont complètement dépourvues de THC, donc pas du tout psychotropes.
Carrément.
Mais ça, visiblement, ils n'ont pas exploité encore. Voilà.
C'est intéressant.
Ouais, c'est intéressant, ouais. Eh bien, il est 22h pile, nous allons rendre l'antenne et plutôt passer l'antenne à Chasseur de Son, qui est bien là ce soir. Donc voilà, pour terminer, juste vous rappeler un peu les coordonnées du Cirque Lyon, BP 93 043 69 605 Villeurbanne CEDEX, si vous voulez nous contacter par voie postale, vous pouvez nous envoyer un petit mail, cirque-lyon-no-log.org. par mail. Vous pouvez aller visiter notre site internet www.cirque-lyon.fr. Nous suivre sur Facebook également ou sur Twitter. J'ai pas les adresses en tête, mais bon, déjà si vous allez sur le site internet du Cirque Lyon, vous trouverez tout ça. Et,
voilà, et puis le numéro de téléphone.
06 11 53 10 07 06 11 53 10 07. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous contacter. parce que bah, malheureusement, vous avez des petits soucis avec la police et la justice. Encore une fois, je répète, ne traînez pas trop quand vous avez des soucis pour nous contacter. Si vous le faites au dernier moment et que vous êtes à 15 jours du procès, on peut rien faire. Voilà. On pourra rien faire du tout. Si vous nous appelez au début, eh bien, là, tout de suite, on peut vous mettre en contact avec des avocats. On peut nous-mêmes vous renseigner, vous expliquer des choses par téléphone. Mais voilà, le faites pas à la dernière minute. Parce que sinon, ben, vous allez avoir des soucis. Et malheureusement, on est toujours en France, un régime prohibitionniste, répressif, sévère, avec plus de 3000 condamnations et des peines de prison par an. Voilà, c'est toujours comme ça. Et donc, normalement, ça devrait vous donner l'envie de vous ruer au cirque, et d'adhérer et de venir grossir les rangs des canactivistes pour aller vous montrer dans la rue l'occasion de la marche mondiale du cannabis début mai ou l'appel du 18 juin, entre autres. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est Chasseurs de Son. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. À la semaine prochaine, au revoir.
Bonne soirée.
Effectivement, hein, faudrait qu'ils viennent, hein, les gens, hein, à ces manifestations. Parce que moi, j'y viens. Et on n'est pas nombreux, hein, à chaque fois. Mais c'est comme ça.
C'est vrai.